Matière à penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Adjadj.
Et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série sur la matière et le matérialisme, avec un texte du philosophe allemand Hans Jonas. Et la question, peut-on réduire le vivant à du non-vivant ? La tendance moderne est de considérer les animaux comme des machines et de réduire le corps vivant à des fonctions cybernétiques et à des réactions physico-chimiques. La vie n'aurait aucune spécificité, elle serait un phénomène superficiel, macroscopique, une simple différence dans la combinaison plus complexe des particules élémentaires. Et pourtant, la position de l'enfant comme du primitif est de considérer la vie comme une réalité irréductible et même une réalité plus fondamentale que la matière. De fait, la tendance première de l'homme est de voir de la vie partout, y compris dans les sources, dans le vent ou dans les objets du quotidien. Ne s'agit-il que d'une vision naïve que la science doit détruire ? Ou cette naïveté contient-elle une sagesse plus haute ? C'est ce que nous allons essayer de penser avec un texte extrait du Phénomène de la vie de Hans Jonas.
Quand l'homme commença pour la première fois à interpréter la nature des choses, ce qu'il fit quand il commença à être homme, la vie était à ses yeux partout, et être, c'était pour lui la même chose qu'être en vie. L'animisme était l'expression largement répandue de cette étape, l'hylozoïsme, l'une de ses formes conceptuelles les plus tardives. L'âme inondait le tout de l'existence et se rencontrait en toute chose. La matière brute, c'est-à-dire vraiment inanimée, la matière morte, était encore à découvrir, car en fait son concept qui nous est devenu si familier n'a rien d'évident. Que le monde ait vie, c'est réellement la vue la plus naturelle et largement soutenue par ce qui se donne à voir au premier abord. La terre, le vent et l'eau, engendrant, fécondant, nourrissant, détruisant, ne sont nullement des modèles de pure matière. Aux yeux de l'homme des premiers temps, se dressant sur sa terre surmontée par la voûte céleste, il était impossible que la vie puisse jamais être dans l'univers une question d'intérêt secondaire plutôt que sa règle omniprésente. Que la mort, et non la vie, exige en premier lieu une explication, reflète une situation théorique qui perdura longtemps. La pensée moderne qui commença à la Renaissance se trouve dans la situation théorique opposée. La mort est la chose naturelle, la vie est le problème. La question qui se pose en amont n'est plus comment la mort, mais bien comment la vie est entrée dans le monde sans vie. Aujourd'hui, c'est l'organisme luttant, sentant, vivant qui est démasqué comme un subtil subterfuge de la matière. C'est seulement devenu cadavre que le corps est franchement intelligible. À ce moment, il quitte son comportement énigmatique et inorthodoxe de vitalité et retourne à l'état familier, sans ambiguïté, d'un corps dans le monde des corps, monde dont les lois générales procurent le canon de toute possibilité de compréhension. Rapprocher les lois du corps organique de ce canon, c'est-à-dire effacer en ce sens les frontières de la vie et de la mort, et l'orientation de la pensée moderne de la vie en tant que fait physique. Notre pensée aujourd'hui est sous la domination ontologique de la mort.
Fabrice Adjadj, notre pensée aujourd'hui est sous la domination ontologique de la mort. Quel est le contexte de ce texte ?
Alors, ce texte vient d'abord d'un grand philosophe allemand, Hans Jonas, qui a traversé tout le XXe siècle et qui a eu trois époques, pourrait-on dire, dans sa pensée. La première, c'est une époque où il s'est intéressé à un courant spirituel des premiers siècles du christianisme, à savoir le gnosticisme. Ce qu'on appelle la gnose ou le gnosticisme, c'était l'idée que le monde matériel avait été créé par un mauvais démiurge, un mauvais dieu, et que les hommes étaient des esprits prisonniers de ce monde matériel et que la vérité consistait à s'échapper spirituellement de ce monde. Et c'est très intéressant parce que, au fond, quand Hans Jonas s'intéresse au gnosticisme, il essaye de montrer un problème qui est celui de la philosophie moderne. Autrement dit, une sorte de mépris de la matière, et même un mépris de la vie. Un philosophe qui a beaucoup marqué Hans Jonas, c'est Martin Heidegger, dont il a suivi les cours. Et Heidegger disait, au fond, l'homme n'est pas à voir comme un vivant ou comme un animal parmi d'autres, il est un existant. Et exister, ce n'est pas la même chose que vivre. Et alors, il y a toujours cette idée que l'homme possède la conscience, que l'homme possède une liberté, que l'homme est au-dessus du reste de la nature, et que la nature, c'est un ensemble de déterminismes, de pièges même, dont il faudrait se débarrasser. Donc, la critique de la gnose chez Hans Jonas, c'est d'abord un effort pour repenser l'homme parmi les vivants, comme un être qui vient aussi de la nature, et donc aussi, en retour d'ailleurs, de reconsidérer la dignité du vivant, ou même de rapprocher le vivant de l'homme, reconnaître une certaine forme d'intériorité à toute forme de vie. Alors, deuxième période de sa vie, c'est celle qui nous intéresse, il va s'intéresser justement à la vie comme telle, il va écrire deux très grands livres, « Le phénomène de la vie », et un autre livre qui s'intitule « Organisme et liberté ». On va y revenir, mais je vais aborder simplement la troisième partie avec sa grande œuvre, son œuvre la plus connue, sans doute un des grands chefs-d'œuvre de la littérature philosophique, « Le principe responsabilité », qui essaye de développer une éthique à l'époque de la technologie, disant que la technologie, avec sa possibilité de transformer la nature même des choses, dans une situation où la nature ambiante, l'environnement apparaît comme vulnérable, où la survie de l'espèce humaine n'est même plus assurée, eh bien, cela implique une réforme complète de la morale avec de nouveaux impératifs catégoriques, notamment assurer la poursuite sur la Terre de conditions de vie décentes pour l'humanité, etc. Bon. Alors, je reviens sur ce texte, hein, ce texte qui vient donc d'un livre intitulé « Le phénomène de la vie » et qui essaye de montrer que notre vision de la vie n'a pas toujours été la même. Et il distingue deux grandes époques. En fait, il y en a trois. Il y a une époque intermédiaire dont il n'est pas parlé dans le texte que nous avons entendu. Une époque qui est une époque, on pourrait dire, primitive, mais qui va aussi avoir ses lettres de noblesse rationnelle, philosophique, à travers la pensée des Grecs. C'est une époque où l'on voit la vie partout. Toute matière est vivante. Et il y a un terme un peu compliqué dans ce texte, un hylozoïsme qui vient de hulé, la matière, et zoé, la vie. C'est-à-dire que toute matière contient une vie. Donc on peut parler de vitalisme éventuellement, mais ce n'est pas exactement cela. C'est-à-dire que quand le primitif voit une source, quand il voit une fontaine, quand il voit le vent dans les arbres, quand il considère la montagne, il a tendance à attribuer à tous ces êtres une animation, une âme, une intériorité même. Et donc cette vision qui est compatible avec ce qu'on peut appeler l'animisme, le totémisme, enfin des formes primitives de pensée, a été aussi, tout en développant certaines formes de distinction, ressaisie sans doute par certains philosophes grecs, notamment Aristote. Alors, deuxième époque, une époque plutôt de dualisme, où l'homme est, on pourrait dire, l'être spirituel, et en face de lui, il a un monde qui est comme vidé de sa vitalité, qui n'est que matière. C'est l'époque, on pourrait dire, cartésienne, le moment cartésien. Donc il y a la res cogitans, la chose pensante, et en face, il n'y a qu'une res extensa, une chose étendue qu'on ne peut considérer que comme une série de phénomènes mécaniques. Et donc les animaux ne sont plus tellement des êtres vivants, même si Descartes ne leur dénie pas la vie, mais voilà, la vie peut se réduire à un phénomène mécanique, à une machine hydraulique, si vous voulez. Voilà. Et donc vient le troisième moment, qui est un moment où on revient à une forme à une vision inversée et réduite à un seul terme, c'est-à-dire il n'y a que de la matière finalement, tout est mécanique, y compris l'esprit. D'ailleurs, nous pourrions faire des intelligences artificielles. Et donc, moment où tout est vivant, deuxième moment où il y a d'un côté la vie de l'esprit qui est en l'homme, mais de l'autre côté un monde naturel qui est entièrement non vivant, mécanique. Et puis troisième moment où tout n'est que machine, tout n'est que phénomène physico-chimique, comme les phénomènes neuroélectriques qui seraient le soubassement de toute pensée. Et même là, quand nous parlons, en fait, ce sont des phénomènes matériels avec les ondes hertziennes qui viennent propager voilà, des ondes qui sont celles de nos cerveaux. Et au bout du compte, tout est finalement non vivant et que le vivant n'est qu'un épiphénomène, voire même une illusion, si vous voulez, ou un certain état du non vivant. Et c'est là qu'il y a cette phrase que vous avez prononcée d'entrée de jeu, qui est une phrase absolument géniale. Le grand mystère, c'était, dans les religions, on pourrait dire primitives, ou dans les religions en général, c'était comment la mort est entrée dans le monde, puisque tout est vivant. Et on voit bien d'ailleurs, même le récit du péché originel, on est dans un monde où tout est vivant, où il n'y a que la vie, et on essaye de comprendre comment le mal et la mort sont entrés dans le monde. Et dans la vision contemporaine, tout est mort, tout est non vivant, et le grand mystère, ça devient comment la vie a-t-elle pu apparaître ? Et pourquoi est-ce que la vie nous frappe tant, alors qu'au fond, elle ne serait qu'une illusion, un subterfuge d'une matière non vivante ?
Mais alors Fabrice Hadjadj, qu'est-ce que c'est que la vie ?
Alors, bien sûr, le but n'est pas forcément ici de répondre à cette question, parce que ça nous prendrait beaucoup de choses, mais simplement, on peut dire surtout ce qu'elle n'est pas. Vous connaissez cette parole, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ? Bon, il est évident que pour nous, la vie, ça n'est pas du non-vivant. Et d'ailleurs, l'expérience majeure que nous faisons, c'est précisément l'expérience de la mort, comme une rupture radicale. Alors, voilà ce qui se passe au fond. Hein. Si on commence à dire, en fait, l'état normal de la matière, c'est le non-vivant, au fond, être vivant, c'est exceptionnel, donc la norme, c'est plutôt la non-vie, donc on est là dans un état d'exception, et si tout d'un coup me prenez l'envie de vous éventrer, cher Galdric, et de vous ramener à l'état du non-vivant, ce ne serait que de la matière qui rentre dans la matière, et finalement, tout reviendrait à l'état normal. Et l'exception, c'est ça. Et on peut soupçonner, au fond, cette sorte de matérialisme d'être une forme postmoderne ou moderne déjà, enfin scientifique, de bouddhisme. Hein. Une manière de s'apaiser face au phénomène de la mort. Si le visage de celle que tu aimes se décompose, eh bien, ne pleure pas, c'est normal. Ce qui était anormal, c'était le visage, c'était sa beauté. Mais à partir du moment où elle se résout en un certain nombre d'atomes, c'est pas grave, quoi. Voilà. Donc ça, c'est il y a quelque chose dans cette réduction qui est peut-être une sorte d'ultime sagesse, vous voyez, mais sagesse, je dirais, au mauvais sens du terme, vous voyez, où on voudrait se consoler. Bon. Et puis, il y a un phénomène qui est typique du mode d'explication contemporain, qui est de dire que la vérité d'une chose n'est pas dans son apparition, dans ses apparences, dans son phénomène le plus complexe, mais plutôt dans ses éléments. Et la vérité de la vie, ce sont les gènes. La vérité du marbre, ce sont les atomes. La vérité de tout ce qu'on va pouvoir voir peut se réduire aux éléments qui les composent. Oui. Donc, c'est comme si je vous disais, on en avait déjà parlé dans une émission antérieure, la vérité du discours, c'est l'alphabet. Bon, bien sûr que c'est composé d'alphabet, mais en même temps, il y a une différence entre tel ou tel écrit, telle ou telle langue, entre le style de Proust et celui, je ne sais pas moi, de Guillaume Musso, quoi, par exemple. Bon, donc, vous voyez, il y a quand même une différence très nette. Et c'est là où on doit vraiment se rendre compte qu'il y a deux modes d'explication complètement différents. Le mode des anciens, qui était fondé sur la question de la finalité, c'est-à-dire que c'était le supérieur qui expliquait l'inférieur. Donc la question « qu'est-ce que la vie ?» Comment répond un ancien ? Eh bien, non pas en pointant la vie la plus primitive, l'amibe, la cellule, mais en pointant les formes les plus hautes. Vous voulez voir la vie ? Eh bien, regardez l'homme. Voilà l'être vivant par excellence. Ou regardez, on pourrait dire, point de vue chrétien, regardez Dieu. Il est la vie. Il est le vivant. Voilà. Donc c'est ça la vie. Et tout le reste n'est que participation à cette vie plus haute. Et ça, c'est commun aussi bien à Platon qu'à Aristote, disons-le. Et de l'autre côté, le mode d'explication moderne, où on va expliquer le supérieur par l'inférieur. Qu'est-ce que la vie ? Eh bien, c'est une certaine organisation de la matière. Vous voyez ? Et donc, on est dans un réductionnisme. C'est ça ce qu'il faut dire. On réduit un phénomène qui est un phénomène, effectivement, impressionnant, si j'ose dire, et qui nous frappe tout de suite. Il y a une différence entre une statue et un être vivant. On le réduit à ses éléments, à ses composants. Et il y a des raisons à cela, parce que réduire la matière à ses composants, c'est précisément la décomposer, et donc pouvoir aussi la réparer, la recomposer. C'est-à-dire que ce réductionnisme a une force qui est une force opératoire. Vous savez, quand on considère le vivant comme une machine, eh bien, on peut le réparer et comme un garagiste le ferait avec une voiture.
Vous écoutez Matière à penser avec notre question aujourd'hui. Peut-on réduire le vivant à du non-vivant ? Justement, Fabrice Hadjadj, est-ce que la science contemporaine n'est pas tributaire de cette vision ? Et plus encore, est-ce que cette vision n'est pas une condition de possibilité de la science contemporaine avec tous les progrès qu'elle a permis ? Dans la mesure où, dans un monde qui aurait déjà son ordre propre, on ne pourrait pas imposer notre ordre à nous, l'ordre de l'intelligence. Alors qu'à partir du moment où on a vidé le monde de son ordre, on peut ensuite le manipuler à son gré.
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que, d'une part, on pourrait soupçonner la science contemporaine d'être dès le départ une technoscience. C'est-à-dire d'avoir pour finalité d'agir plutôt que de connaître. Et c'est ce qu'on voit chez Descartes dans la sixième partie du discours de la méthode, où il dit bien que ce qu'il veut, c'est trouver une science utile à la vie qui permettra de maîtriser les forces de la nature pour rendre l'existence humaine meilleure et même lutter contre l'affaiblissement de la vieillesse, etc. Donc il y a un projet vraiment, qui est un projet, je dirais, opératoire, médical, d'emblée technique, dans la fondation de la science moderne. On trouve ça aussi chez l'anglais Francis Bacon, qui dira « l'homme peut plus qu'il ne sait ». Et donc l'enjeu, c'est un enjeu de pouvoir. Il ne s'agit pas tellement, par cette science, de connaître le réel, mais il s'agit de pouvoir intervenir dessus. Et c'est l'acte de naissance. Et on pourrait, par opposition, dire que la sagesse antique, la physique antique, celle d'Aristote, n'était pas une science opérative pour agir sur le réel, mais une science contemplative. Et le propre de la contemplation, effectivement, c'est de s'émerveiller de l'ordre du monde à tel point qu'on pourrait avoir peur d'y toucher. C'est-à-dire, on va obéir, on va suivre, on va accompagner l'ordre du monde, mais ça veut dire qu'on ne cherche pas à le troubler, ce serait presque une profanation, d'aller à l'encontre de l'ordre voulu par les dieux ou voulu par Dieu. Et donc, je pense, parce qu'il ne faut pas oublier que Descartes est un chrétien, est un catholique, un grand catholique, je pense que ce qu'il y a, c'est que chez les anciens, il y avait cette idée d'un ordre du monde absolument intouchable, divin, un cosmos. Et dès lors, il fallait le décrire uniquement. Alors qu'avec le christianisme, il y a quand même l'idée qu'il y a du mal qui est entré dans ce monde, que la nature, ce n'est pas que de l'ordre, c'est aussi du désordre, que la création, qui est bonne en elle-même, a été blessée. Et donc, il y a des choses qu'on pourrait réformer, transformée. L'homme n'est plus simplement une partie de la nature, il est l'intendant de la création, et il est là aussi pour soigner. Donc, je veux dire, cette vision technoscientifique, elle pose un problème, c'est un réductionnisme, mais en même temps, elle peut être complètement ressaisie dans la charité. C'est-à-dire qu'il y a chez Descartes, à mon avis, quelque chose qui est profondément chrétien, qui est de dire « il faut une science qui fait que je peux soigner mon prochain ». Je ne peux pas en rester à une sagesse qui d'elle-même me fait passer à côté de l'homme qui a été blessé entre Jérusalem et Jéricho, parce que je dois aller rendre un culte à Dieu, vous voyez, c'est une sagesse purement contemplative. Je dois avoir une science qui est celle du bon samaritain, c'est-à-dire qui est capable de s'arrêter devant l'homme blessé et qui est capable de trouver les moyens de le soigner. Et on voit bien que tous les progrès de la médecine se sont faits à partir de cette science cartésienne qui réduit la vie à un mécanisme de telle sorte qu'on peut intervenir sur ce mécanisme et le réparer.
Fabrice Adjadj, cette vision d'un monde vivant, composé de vie et qui est premièrement vivant avant d'être matériel, ce n'est pas seulement une vision gnostique, c'est aussi une vision biblique. Dans l'épisode de Caïn et Abel, par exemple, la terre crie vengeance, la terre s'ouvre pour boire le sang d'Abel et crie vengeance. Et donc nous voyons que cette terre vivante, c'est aussi quelque chose de biblique. Est-ce que dès lors, en reprenant la dernière phrase de Hans Jonas, avec notre pensée qui serait aujourd'hui sous la domination ontologique de la mort, on pourrait voir un lien entre la culture de la mort et ce matérialisme non vivant?
Alors, vous avez dit une vision gnostique, mais vous vouliez dire en fait une vision primitive, ou plutôt une vision et qui effectivement se retrouve dans la Bible. Il y a la création qui gémit tout entière, la création qui a été livrée au péché comme ne l'ayant pas voulu. Alors, qu'est-ce que c'est que cette volonté des choses, et ça vaut aussi bien pour les plantes que pour les pierres, d'une certaine façon. Donc, alors, bien sûr qu'il faut distinguer entre le vivant et le non-vivant, entre le minéral et les premiers vivants, que sont les végétaux, des vivants plus ordonnés que sont les animaux. Et d'ailleurs, vous voyez, quand Aristote dit « vous voulez voir la vie », il dit « voyez l'homme, voyez les animaux, mais pas d'abord les plantes ». Vous voyez, il faut voir toujours des manifestations plus hautes pour comprendre ce qu'est le phénomène de la vie et non pas plus basse. Alors, c'est sûr que vous avez glissé, d'une certaine façon, d'une question de réflexion sur l'essence de la vie, de la matière, à un problème éthique, un problème moral, ce qu'on appelle culture de mort. Bon, est-ce que le mot culture est approprié? C'est presque une emprise de la mort, une inculture. Donc, effectivement, ce mot culture de mort, qui a été déployé, développé par Jean-Paul II dans Evangelium Vitae, cette très grande encyclique, laisse entendre qu'il y aurait chez nous, effectivement, une sorte de pulsion de mort. Et on le voit bien dans les sociétés européennes, qui, au lieu de se préoccuper du don de la vie, de ce qui vaut pour des raisons qui nous poussent à donner la vie et à être encore plus vivant, si j'ose dire, et à donner sa vie même, eh bien, se préoccupe uniquement des moyens de se tuer. On a déjà parlé de la question du suicide assisté, de l'euthanasie. Signe d'un déclin, d'une vieillesse, d'une lassitude de l'Occident, qui ne fait plus d'enfants. Bon. Donc, y a quelque chose comme la culture de mort. Mais effectivement, cette culture de mort a peut-être son assise la plus fondamentale, non pas dans des options morales ou idéologiques, mais dans un certain type de vision scientifique où on dit « mais de toute façon, tout n'est qu'atome ». Donc, je veux dire, à quoi bon faire des êtres vivants si la vérité de l'univers, c'est de se résoudre dans des particules élémentaires? Laissons les particules élémentaires s'occuper d'elles-mêmes et nous, accordons-nous une mort douce, en attendant. Et c'est pour ça que votre remarque est extrêmement pertinente. Mais alors, on arrive à ce problème, et on peut conclure là-dessus, parce que c'est quand même un problème, un retournement majeur. Cette science mécaniciste, atomiste, s'est faite pour aller au secours de l'homme, pour l'aider. C'était ça le projet de Descartes. Descartes avait une espérance chrétienne. Et voilà que tout d'un coup, elle a atteint un seuil critique, elle se retourne contre l'homme, parce que si elle devient un pur mécanicisme, eh bien, on ne voit pas pourquoi on continuerait à vivre une vie de machine. Laissons les machines et laissons les atomes poursuivre cette aventure vide de sens sans nous, qui n'est même pas une aventure.
Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Hans Jonas, Fabrice Adjadj, Galdric Drapé, Michael Durmeyer à la technique et Sifrène Michel à la lecture. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligents.